Je sais qu'il vous a dit de le faire, peu importe. Vous allez bien, les amis? Vous avez l'air en forme. Je ne sais pas sur quel campus vous êtes, mais Littleton est en forme. Dites à votre voisin, tu as l'air en forme. Et si vous êtes tous les deux célibataires, dites, oui, je l'ai dit. C'est le meilleur endroit pour trouver votre conjoint, n'est-ce pas? Allez. Écoutez, nous allons dire bonjour à tout le monde, à Littleton, Lakewood, Ervada, Bruxelles en Belgique. Nous vous aimons beaucoup. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et je voudrais dire, comme d'habitude, un salut spécial aux hommes et aux femmes qui sont dans les centres de détention. Nous vous aimons, nous sommes heureux et fiers de vous. Vous êtes notre famille, nous sommes heureux de faire l'église avec vous aujourd'hui. Et si vous êtes là pour la première fois, levez la main. La première fois sur tous les campus, levez la main. Bonjour, nous sommes très heureux de vous voir. Bienvenue, soyez les bienvenus, nous sommes heureux de vous voir. Écoutez, je ne sais pas si vous avez eu, pour ceux qui nous visitent, si vous avez connu beaucoup d'églises ou aucune église du tout, ou juste assez d'églises pour ne plus jamais vouloir y retourner dans votre vie. Je ne sais pas. Peut-être que ça a été extraordinaire. Peut-être que vous avez êtes venu ici ou bien vous nous regardez en ligne. Vous vous sentez prêt, vous vous sentez loin de Dieu. La vie va bien, la vie va très mal. Sachez que peu importe ce qui se passe, nous sommes contents que vous soyez là. Alors vous pouvez être à l'aise, souffler, il n'y a pas de pression. Nous sommes des gens imparfaits et nous nous réunissons ici à la poursuite d'un Dieu qui est parfait. Et nous sommes heureux que vous soyez là. Bienvenue chez vous, bienvenue à Red Rocks. Qui ici était là la semaine dernière? Vous ne savez pas que j'allais faire les présences, hein? Je ne vois pas assez de mains. Ok. Alors, je vais vous demander pourquoi vous n'êtes pas venu dimanche passé. Non, il y en a qui disent, je savais que j'aurais pas dû venir ici. Ils viennent d'un parc d'attractions, je peux pas leur faire confiance. Écoutez, vous vous souvenez du témoignage de Yann de la semaine dernière? Nous allons vous montrer la deuxième partie de son histoire aujourd'hui. Et je sais que c'est pourquoi certains ici sont venus et ont invité des amis et des membres de leur famille. Vous aviez entendu la première partie, on vous avait raconté qu'on allait partager la seconde partie aujourd'hui et vous avez invité des gens pour cela. Yann est un de mes amis, c'est un volontaire ici à Littleton, il fait partie de cette église. C'est aussi un méchant, il a signé un contrat de 5 combats avec l'UFC et son rêve, il est en train de le poursuivre, devenir champion du monde. Et il a dit que si vous voulez me faire des histoires, il faut passer par lui avant d'arriver chez moi. Alors, voilà pour vous. Non, je blague. Ce que je veux dire, c'est que nous allons voir la seconde partie de son témoignage dans un instant. Mais ne soyez pas coincés sur ce qu'il fait comme métier. Certains aiment beaucoup, d'autres n'aimeront pas. Chez nous, on est un peu divisé quand on est sur cette question des sports de combat. Moi, j'aime regarder les sports de combat, la boxe, différentes. Enfin, j'aime pas trop la boxe quand on doit payer et puis qu'on voit qu'il n'y a personne qui est par terre à la fin. Mais ici, les sports de combat libre, c'est un peu différent. Et moi, j'aime les regarder. Ma femme, pas. Elle aime les combattants, surtout ceux avec qui on a des relations en ville ici, mais elle a peur qu'ils se fassent mal, s'ils saignent, elle a peur, elle pense que ça fait peur aux enfants aussi. Et donc, chez nous, à la maison, on est un peu divisé sur cette question. Si je regarde un sport de combat à l'étage, ma femme, elle ne va pas me forcer à descendre, mais je sais qu'elle aimerait que je descende. Alors, si je regarde un sport de combat à l'étage, elle vient dans la cuisine. Alors, elle va communiquer ce qu'elle pense du fait que je suis là à regarder la télé avec même un souffle. Vous savez, les gens mariés savent, hein, on sait communiquer avec plein de choses. Alors, elle fait. Techniquement, ce n'est pas un mot, n'est-ce pas? Mais tout est dit, n'est-ce pas? Et puis elle va dans la cuisine, elle prend un verre dans l'armoire et elle le met sur le comptoir. Et vous savez, les gens mariés, vous savez comment ça se passe. La manière dont elle pose le verre sur le comptoir, ça nous dit beaucoup de choses. Elle fait, voilà, comme ça, fermement, elle tape le verre comme ça. Ok, on a compris. C'est pas, il y a eu un peu de force là. Et donc avec son souffle et avec le verre sur le comptoir, elle dit tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, ne me parle pas ce soir, tu fais peur aux enfants, tu devrais descendre au sous-sol. Voilà ce qu'elle me dit. Donc, mais ne soyez pas coincés sur ce qu'il fait. Donc, certains aiment, certains n'aiment pas. Ce n'est pas une histoire. Et Yann sera le premier à vous le dire. Ce n'est pas une histoire de sport de combat. C'est une histoire de ce qui se passe quand Dieu transforme la vie des êtres humains de manière puissante. Voilà l'histoire. Et donc, nous pouvons célébrer cela. Nous pouvons tous être enthousiastes de cela. Et donc, Yann, vous allez voir, trouve Dieu, ou bien on devrait dire que Dieu le trouve. Dieu change sa vie. Il est dans un pays étranger, dans une prison étrangère, en isolement. Et tout ce qu'il a, c'est une Bible en langue étrangère. Et Dieu le touche et Dieu transforme sa vie. C'est une histoire extraordinaire. La raison pour laquelle j'aime raconter cette histoire et des histoires semblables, c'est parce que Apocalypse 12 dit qu'il y a deux choses qui vont vaincre la puissance de Satan dans notre vie. C'est le sang de Jésus-Christ à la croix. Et la puissance de notre témoignage. Alors j'aime partager les témoignages parce que quand vous regardez ce que Dieu fait dans la vie de Ian, Dieu va vous parler de votre vie. Alors, ceci étant dit, voici la suite de l'histoire de Ian. J'ai dit à ces gars, il y a 6 mois, je veux 5 champions du monde dans 5 ans qui relèvent le défi. Deuxième partie de l'histoire de Ian. En dernière année, j'ai commencé à vendre de la drogue. J'ai payé la caution et je me suis enfui. On est allé en Colombie, en Amérique du Sud. On faisait du trafic de cocaïne. J'ai été attrapé, j'ai été condamné à 3 ans et demi. Le premier jour, j'ai provoqué une émeute, une bataille, parce qu'il fallait que j'établisse qui j'étais pour pas qu'on se moque de moi par la suite. Et j'ai écopé de 3 semaines d'isolement. Après 2 semaines, je comptais les fentes dans les murs, je faisais des abdos, je faisais du yoga, je boxais mon matelas que j'avais roulé. J'étais dans un pays étranger, dans une cellule. Je ne connaissais personne, j'étais tellement seul, je ne pouvais même pas appeler chez moi. La seule chose que j'avais, c'était une Bible en espagnol et un dictionnaire anglais-espagnol. Et je me rappelle, j'ai craqué, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, parle-moi maintenant parce que je deviens fou. Alors j'ai ouvert la Bible. Et j'ai commencé à lire cette parole en espagnol et j'ai quasi tout compris. J'ai fait 2 ans et 4 mois et puis on m'a renvoyé aux États-Unis. Quelques mois plus tard, j'ai payé la caution. J'ai été contacté par un ancien pote qui faisait des sports de combat. Et il me disait, tu sais, je suis entraîneur à Factory X. Moi, j'avais pas d'argent, pas de licence, rien. Il m'a accueilli et j'ai rencontré le coach Marc Montoya. Le jour où j'ai rencontré, j'ai dit, je comprends ton histoire. Et une des raisons pour laquelle tu es ici et veux te battre, c'est à cause de cette histoire. Tu as besoin de cet exutoire. Mais tu peux pas revenir à cela. Pour survivre là-dedans, je devais faire fi de tout ce qui pouvait m'arriver. J'avais deux égos, un bon, un mauvais. J'ai été mis dans une position que j'ai aujourd'hui pour diriger ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, via le sport de combat. Mais c'est bien plus que le sport de combat, c'est la vie dont il est question ici. Je peux leur dire X, Y, Z, mais si je leur montre et leur dis et le vis et le respire, ça, c'est un bon parallèle avec la foi en Dieu. Dieu nous montre, il nous dit, il nous donne des exemples, bons et mauvais, et ce sont des actions, et on choisit. Soit de croire, écouter, faire, ou alors d'ignorer, de s'isoler et d'essayer de vivre tout seul, par soi-même, de ses propres forces. Ici, quand on s'entraîne, on met la musique très fort, il y a des gens autour de la cage, à quelques mètres, qui disent plein de choses, mais c'est ma voix qu'il doit écouter, dans tout le chaos, la musique, qui est une simulation de la foule, en fait, les fans qui sont en train de crier des choses odieuses, vous savez, comme c'est toujours comme ça dans les matchs, et qui donnent même des conseils techniques, mais c'est pas eux qui doivent écouter, c'est moi qui dois écouter. Le coach est ici tous les vendredis autant que possible, et on fait ça depuis des années, c'est presque comme un jeu vidéo, il me dit de faire les choses, et je le fais, à gauche, à droite, je fais ce qu'il me dit. Et c'est la même chose avec Dieu. Plus vous parlez avec Dieu, plus vous priez, plus vous êtes dans la parole de Dieu, plus vous écoutez Dieu, vous reconnaissez sa voix. Va à gauche, va à droite, ne fais pas ça, fais ça. C'est une relation. C'est ça l'important. C'était pas mal, n'est-ce pas? Parfois, quand je parle à Yann, Je me dis que si le Yan qui se trouvait dans le pays étranger en isolement, dans sa cellule, pouvait voir le Yan actuel, il ne penserait même pas que ce soit possible. Parce qu'aujourd'hui, Yan est en train de poursuivre son rêve. Mais il fait, vous savez, il le fait avec un nouveau sens d'objectif et de but, une joie qu'il pensait impossible. Et j'ai demandé à Yan, on va montrer ta vidéo, et quel est le message que tu voudrais que les gens retiennent et comprennent? Et il m'a dit, dites à cette église que vous pouvez toucher le fond, mais notre Dieu peut vous en tirer si vous le laissez faire. N'est-ce pas extraordinaire? Et je pense que certains sont venus aujourd'hui avec des fardeaux, certains connaissent ce genre de situation, peut-être que vous êtes le seul à connaître quelle est votre situation et la gravité de vos situations et vous vous sentez désespéré. Mais sachez que même si vous pensez que vous êtes en plein dans le fond du puits, il n'y a pas de passé que notre Dieu ne puisse racheter. Il n'y a aucune personne que notre Dieu ne puisse sauver. Il n'y a aucune situation que notre Dieu ne puisse changer. Et cela vous inclut. Alors je suis content que vous soyez là, je suis heureux que vous ayez vu cette histoire de Yan. Et peut-être que Dieu vous a amené ici pour cette raison. Pour écouter, pour regarder cette histoire. Alors, c'était l'histoire de la semaine dernière, on en avait parlé. Vous avez entendu avec son coach, dans la conversation ici, il a expliqué que ce n'est pas juste être accepté et accueilli et pardonné qui compte, mais c'est vivre avec Dieu. Et la dernière phrase qu'il a dite, il a dit, c'est une relation. Nous ne devons pas simplement être accueillis à la maison comme avec le fils prodigue, il rentre chez lui, le père est en train de courir vers lui dans l'allée de la maison. L'histoire ne s'est pas arrêtée là, ça c'était le début de l'histoire. Le père n'est pas allé le rencontrer juste pour l'accueillir dans l'entrée dehors, non, il ne s'arrête pas au bisou de bienvenue, il dit viens rentre à la maison et vivons ensemble. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, pas juste s'arrêter au salut, pas juste s'arrêter au moment où le père accueille, pardonne les péchés et l'embrasse. Il dit viens vivre dans la maison avec moi et vous entendez dans ce témoignage, il a dit lorsque nous vivons avec Dieu, il parle. Et nous avons besoin de cela, n'est-ce pas? Lorsque nous vivons avec Dieu, il nous parle. Et j'aime ce que Marc a dit. Il a dit, il doit choisir ma voix, il doit écouter ma voix au milieu de tout le vacarme. Est-ce que nous, on n'a pas besoin de ça aussi? Dans notre vie, nous vivons à une époque où il y a beaucoup de bruit. Parce que jusqu'au ciel, nous serons des gens brisés dans un monde brisé. Ça veut dire qu'il y aura plein de chaos. J'étais dans le salon cette semaine d'un ami, je lui tenais la main et je priais pour que Dieu guérisse son cancer. On traverse des moments difficiles et en tant qu'église, en tant que famille, on la traverse ensemble. Il y a des choses difficiles, des choses dures qui nous arrivent pendant notre vie. On a des grandes décisions, beaucoup d'ailleurs doivent prendre des grandes décisions aujourd'hui. Au sujet de relations, au sujet de carrière, au sujet de là où il faut vivre, de ce que vous devez arrêter, de choses que Dieu vous demande de commencer, d'un risque que Dieu vous demande de prendre. Il y a des grandes décisions comme cela dans la vie. Et lorsque vous passez des moments difficiles, lorsque vous avez des décisions à prendre, parfois vous avez l'impression qu'il y a des millions de voix qui vous disent quoi faire. Tout le monde dans votre vie, tout d'un coup, il a une opinion sur ce que vous devez faire. Lui, il a une opinion, elle a une opinion, le voisin, et il dit, écoute, il faut, tu dois faire ça, et lui, tu ne dois pas l'écouter, mais moi, je vais te dire ce que tu dois faire. Non, tout le monde a son opinion. Ensuite, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un peu les montagnes russes, ma vie. Et quand je suis dans un moment difficile, ou alors j'essaye de prendre une grande décision, je ne peux même pas faire confiance à ma propre voix, parce que même ma voix change chaque jour. Parfois, chaque heure, ça peut changer. Un jour, je suis vainqueur, je suis victorieux, et puis le lendemain, je me trouve au fond du trou, et j'ai même plus envie de sortir du lit, et je peux arriver à rien. Et ma voix, comme ça, elle change, elle va dans tous les sens. Et puis, je crois qu'il y a aussi Satan, qui est l'auteur du mensonge. Il vient à notre oreille, et il nous murmure, il nous dit, tu peux pas t'en remettre. Dieu ne veut plus rien avoir avec toi, c'est fini, Dieu ne fait plus attention à toi. Tu n'es pas capable. On a cette voix, on a notre voix qui change constamment, on a toutes les autres voix, les opinions des autres, et puis il y a nos émotions. Mais pourtant, nous devons reconnaître la voix de Dieu au milieu de tout ce chaos. Alors, ça semble un beau discours dans l'Église, mais est-ce que nous pouvons vivre comme cela? C'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons vivre comme cela en vrai? Parce qu'on en a besoin. J'en ai besoin, vous en avez besoin. Et donc, si c'est vrai, si ce que Yann nous a dit est vrai, et une relation avec Dieu est possible, et que dans cette relation, il nous parle, nous savons que nous avons besoin de l'écouter. Nous avons besoin de l'écouter, nous avons besoin qu'il nous guide, qu'il nous réconforte, qu'il nous équipe, qu'il nous calme parfois même, qu'il nous pousse un peu vers l'avant, qu'il nous retient parfois. On a besoin qu'il soit là, on a besoin qu'il nous parle. Et la question que je voudrais que nous répondions aujourd'hui, et je me la demande, je me la suis demandée cette semaine, je vous demande de vous la poser. Si Dieu veut parler dans ma vie, est-ce que je l'écoute? Si Dieu veut parler, et j'en ai besoin, est-ce que je l'écoute? Voyez, je crois que lorsque nous prions, nous parlons à Dieu, et lorsqu'on lit sa parole, nous écoutons Dieu. C'est de cela que je veux vous parler maintenant. Quand on prie, on parle à Dieu. Quand on ouvre sa parole, nous l'écoutons. Et aujourd'hui, je vous demande, est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous êtes dans la parole? Parce qu'il veut vivre avec vous. Il ne veut pas simplement vous accueillir à l'entrée, dans la porte. Non, il vous invite à l'intérieur, dans la maison, pour vivre avec lui. Est-ce que vous êtes dans la parole en train de l'écouter? Et ce que je ne veux pas, c'est que ce message soit le mignonième où vous soyez dans une église et quelqu'un, que ce soit dans la salle ou sur la scène, et dit « Tu sais, tu dois lire la Bible, hein ?» Et puis, c'est la mignonième fois que vous entendez, puis vous vous dites « Ouais, ça paraît bien, ça paraît spirituel, religieux, mais je n'ai pas le temps, je ne comprends pas, je ne suis pas intelligent assez, je ne saisis pas, c'est bon, je laisse. » Mon espoir, c'est que vous soyez enthousiasmés de commencer ou de recommencer même à lire la Bible et que vous compreniez aussi pourquoi il faut la lire, parce que ça change tout. Ça passe d'une activité religieuse où on fait les choses sans comprendre à une chose qu'on est heureux de faire et pour laquelle on a un but. 2 Pierre 1, 20-21 dit ceci. Sachez, comprenez. Il dit, je ne veux pas juste que vous entendiez ce que je vais vous dire, lisez la Bible. Non. Et j'ai utilisé cette petite voix, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime l'utiliser maintenant. Merci, Jeannette. Mais surtout, avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. Je m'arrête ici un instant. Je vais demander de remettre le verset là. Ça, c'est important. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis dit ceci. Ce type-là, il a vécu il y a des années. Le monde aujourd'hui est différent. Alors, il ne peut pas me parler aujourd'hui de ma situation parce que lui, il vivait là-bas à cette époque et il ne comprend pas ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Il ne comprend pas. Ce sujet ne veut même pas dire la même chose aujourd'hui qu'à l'époque. Il est tellement loin de notre époque, de notre monde. Il n'a rien à me dire. C'est juste un gars qui vivait là-bas à cette époque, il était pêcheur, il était limité dans sa compréhension du monde. Et donc il faut prendre ça en considération. Et puis Dieu m'a dit, je sais que tu allais dire penser comme cela, c'est pourquoi j'ai noté ceci dans ma Bible. Sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a été jamais apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et cette phrase « poussé par le Saint-Esprit » signifie littéralement « produit ». Dieu dit « Tu ne dois pas t'inquiéter que j'utilise des humains pour écrire la Bible. » Tout ça, ça a été produit. J'ai utilisé des hommes et des femmes, mais tout cela a été produit par le Saint-Esprit. Alors voici ce qu'il faut savoir lorsque vous allez à votre Bible. C'est un Dieu parfait qui a créé une parole parfaite qui s'applique parfaitement dans votre vie aujourd'hui. Ça, c'est bon à savoir. Un Dieu parfait qui a créé une parole parfaite qui s'applique parfaitement dans notre vie aujourd'hui. La parole de Dieu vous dirige au travers de votre appel. Vous n'avez jamais ressenti, et j'entends cela très souvent, « Je suis dans les ténèbres ». Dans ma vie. Ça vous est déjà arrivé? Je ne sais pas quel est mon but. Je ne sais même pas ce que je dois faire. vous êtes en pleine situation où vous ne savez pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Et puis on a toutes des grandes questions que la vie nous lance. Est-ce que je vais à gauche, à droite? Est-ce que je reste ici à mon boulot? Est-ce que je quitte? Est-ce que je dois prendre ce risque? Est-ce que je dois me retenir? Est-ce que je dois commencer ça? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois sortir avec lui et me marier avec elle? Et ça ne s'arrête pas. Et on se sent dans les ténèbres et on ne sait pas. On est censé, oui, bouger, mais on est paralysé parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas où aller. Quel est le pas à faire? Et Dieu dit, allume la lumière. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il a dit, il y a beaucoup de moments où tu auras l'impression d'être dans les ténèbres et vous êtes sur un sentier, vous essayez de suivre l'appel de Dieu, mais vous ne savez pas où mettre le pied. Et Dieu dit, je vais te montrer, va dans la parole, allume la lumière, je te montrerai où mettre les pieds. Je vais te guider au travers de ton appel, si tu passes du temps dans ma parole. Je pense que la Bible nous enseigne qu'il nous dirige au travers de l'appel, mais aussi qu'il nous équipe pour notre appel. 2 Timothée 3,16 dit ceci. Toute écriture. Quelle quantité de la Bible je dois écouter? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il y a des parties qu'il ne faut pas? Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire nous, soit accompli et propre ou équipé à toute bonne œuvre. Ce que ce passage nous dit, c'est que vous ne savez peut-être pas ce que Dieu fait en ce moment dans votre vie, mais il a un plan, il a un but pour votre vie maintenant. Et il dit, il y aura des jours où vous aurez l'impression que oui, je ne sais pas quoi faire, mais notre Père Céleste dit, c'est vrai, vous ne savez pas, mais c'est pour ça que je vous ai donné ma parole. Si vous lui donnez la priorité, si vous passez du temps dans la parole, non seulement je vous dirigerai où aller dans votre appel, mais je vais vous équiper pour votre appel. Je vais m'assurer que vous sachiez où mettre le pied, et lorsque votre pied touchera le sol, vous serez prêt à être à cet endroit parce que je vous aurai équipé pour votre appel, vous enseignant, vous corrigeant, vous guidant sur le chemin si vous me laissez faire. Je crois que la parole de Dieu nous montre qu'il nous guide au travers de notre appel par sa parole, qu'il nous équipe pour notre appel. Et il passe aussi beaucoup de temps à dire qu'il nous apportera aussi le succès dans notre appel lorsqu'on passe du temps dans la parole. Ce n'est même pas moi qui le dis, Josué 1, 7, 8. Si vous êtes ici depuis quelque temps, on a fait une série qui s'intitulait « Intrépide ». Josué avait été appelé à une œuvre folle, incroyable. Et il se disait « Je crois que Dieu m'appelle à ça, mais d'un autre côté, je ne me sens pas capable de le faire. » Et Dieu dit « Je sais. » Mais fortifie-toi seulement et aie bon courage. Il parle de sa parole ici. Agis fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur. Oui, à l'époque, c'est tout ce qu'ils avaient de la Bible. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Continuons. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est tous les jours qu'il faut le faire. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Il parle du succès et dit, allez dans la Bible, lisez-la chaque jour, méditez-la, pensez à la Bible. Parlez-en autour de vous, posez les questions. Plongez dans la parole. Moi, je vous aiderai à réussir dans votre appel. Et la question que je me suis posée, honnêtement, c'est est-ce que vous êtes dedans ou est-ce que vous marchez dans les ténèbres, à vous plaindre des ténèbres, mais en refusant d'allumer la lumière? Parce que parfois, c'est ce que nous faisons. Je ne sais pas quoi faire et j'attends que Dieu m'aide. Qui t'aide à quoi? Ouvrez la Bible pour toi? Ouvre la Bible, il veut te parler. Parfois, on marche dans les ténèbres et on refuse simplement d'allumer les ténèbres, la lumière. Et puis, on est en colère parce qu'on est dans les ténèbres. Le mois passé, on a fait notre première conférence RED. Et certains qui aiment Jésus en ont fait partie. Je pardonne ceux qui ne sont pas venus. On a refait cette conférence à une plus petite échelle, bien sûr, mais on l'a refaite à Bruxelles, pour notre campus de Bruxelles. Et donc, moi, avec certains du groupe de louanges, on est allé là-bas. Et après, le premier soir du Weekend Red à Bruxelles, on a eu une soirée de louanges. Et Bruxelles, vous avez été extraordinaire, vous avez fait sauter le toit. C'était extraordinaire de vous voir louer Dieu. J'étais là avec vous. Et la moitié du temps, j'ai adoré. L'autre moitié, j'essaie de prendre des photos en train de pleurer, de faire des posts. Enfin, je retourne après à ma chambre d'hôtel. Et j'avais tellement le jet lag que ce jour-là, j'avais mis tous les rideaux occultants et j'avais oublié de les ouvrir avant de partir. Et donc, je rentre dans ma chambre d'hôtel à Bruxelles et il fait noir, le noir comme dans un four. Et je me dis, ah, pas de problème. Je suis tout seul, Gilles n'est pas avec moi, ça veut dire que je ne dois pas ranger mes affaires. Donc, j'ai des affaires partout, mes vêtements. Voilà, quand je vais dans ma valise, je fais comme ça, ma femme n'est pas là, je m'en fiche. Et puis, il y a des affaires partout donc. Et je suis dans le noir et je marche comme ça avec mes mains sur le mur. Je marche comme ça, il fait une obscurité totale. Je me dis, je vais toucher l'interrupteur quelque part. Et puis, il m'a fallu longtemps. J'aurais voulu filmer cette scène. Et donc, finalement, je touche l'interrupteur pour allumer la lampe et rien. Je dis, oh, super. La lampe dans la salle de bain a pété. Super, l'hôtel de Bruxelles. Merci, hein. Maintenant, je vais aller au lit et je me cogne contre des choses. Je dis des choses que seul Chad ose dire dans une église. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Finalement, je trouve la lampe de chevet. Vous savez, le bouton, c'est quoi? Il faut tirer, il faut pousser, il faut frapper dans les mains et ça prend une demi-heure. Je ne sais pas comment faire. Et j'essaie d'allumer la lumière. Finalement, je trouve l'interrupteur, j'allume rien. Je me dis, voilà, quand la Bible parle de persécution, c'est ça. Je suis ici dans une mission spirituelle et finalement, j'arrive au petit bureau à côté du lit parce que ça, il y a une lampe là-bas. Même chose, ça ne s'allume pas. Et puis, je me dis, ah, mais c'est vrai, j'avais complètement oublié. Beaucoup des hôtels en Europe, contrairement à des hôtels aux États-Unis, mais à l'entrée de la chambre, il y a un interrupteur général. Ah, c'est ça. Alors, je retourne là, je trébuche, je marche sur les affaires, j'arrive à l'entrée. Si vous appuyez sur cet interrupteur d'abord, et j'appuie sur cet interrupteur, bling, 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 tout s'allume dans la chambre, il fait plein jour. La lumière partout, dans la salle de bain, sur le lit, le bureau, la lampe à côté. Tout le reste s'est allumé, est devenu très clair. Il fallait juste que j'appuie sur le premier interrupteur. Et je peux m'empêcher de penser que certains font ça aussi dans leur vie. Parce qu'on a des saisons, vous savez, où on dit « Dieu, mais je suis dans les ténèbres. Je suis dans les ténèbres, dans mes relations. Je suis dans les ténèbres, dans ma carrière. Je suis dans les ténèbres quand il est question de mon rêve. Je suis dans les ténèbres. » Mais tout le temps, on dit « Si seulement tu appuyais sur le premier interrupteur. Si seulement tu ouvrais ma parole et tu m'écoutais te parler. » Tout le reste s'illuminerait. Tout le reste aurait du sens pour toi. En fait, Matthieu 6, 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces autres lampes, toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. » Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y en a qui ont l'impression qu'ils sont dans les ténèbres maintenant et le créateur de l'univers dit « Mais c'est parce que tu as oublié d'appuyer sur l'interrupteur principal. » Ça, c'est vivre ensemble. Retourne à la parole. Je marcherai avec toi. Je vivrai avec toi. Je te guiderai. Je t'équiperai. Je te formerai. Je te dirigerai. Je te pousserai vers l'avant. Au bon moment, je t'aiderai à avoir du succès. Allume la lumière. Et il y en a certains, ceux qui étaient en colère contre moi parce qu'ils me disaient « Ouais, c'est une église de... » de pas d'attraction et vous vous dites, est-ce qu'il dit que Dieu parle? Si j'ouvre la Bible, Dieu va vous parler. Ouais, ouais, une église de pas d'attraction, pause, on s'en va. Croyez-le ou non, mais c'est ça que je dis. Si vous plongez dans la parole de Dieu, je crois que le créateur de l'univers va commencer à vous parler de votre vie. Écoutez. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous ne lisez pas une parole morte quand vous ouvrez votre Bible. Vous ne lisez pas de l'histoire seulement quand vous ouvrez votre Bible. vous vivez une parole qui est efficace et vivante. Dieu veut vous parler aujourd'hui de ce qui se passe dans votre vie au travers de sa parole. Un roi nous dit que Dieu, parfois, il nous parle d'une petite voix, presque comme un murmure. Vous avez remarqué que je dis murmure et en même temps je murmure. C'est une technique de communication, ça vous dépasse complètement. Désolé, j'ai pris trop de café ce matin. Et donc, quand vous mettez les deux ensemble, vous savez ce qui se passe ? Vous avez un Dieu qui dit « Ma parole est vivante et active et prête à vous parler » et d'une petite voix, si vous la laissez parler. Et c'est pourquoi ceux qui ont passé du temps dans la parole, vous pouvez expérimenter que vous lisez un verset. Vous avez lu ce verset 20 fois, mais aujourd'hui je l'ai lu et ça a sauté à mes yeux. Quelque chose comme une alarme dans votre cœur. Et ce n'était pas audible, mais c'est en moi quelque chose qui me disait « C'est pour toi ». Ça vous est jamais arrivé? Vous avez lu des parties de la Bible, vous avez déjà lu avant, mais tout à coup, vous lisez un chapitre, parfois un paragraphe, parfois même un verset, et ça vous parle comme jamais auparavant, et vous vous dites « C'est pour moi ». Et Dieu dit « C'est vrai, c'est ce que tu avais besoin aujourd'hui. » Il faut écouter, il faut écouter, il faut être encouragé. C'est pour toi aujourd'hui. Ça, c'est quand Dieu vous parle de sa petite voix. Quand on décide de plonger dans sa parole, il nous parlera de notre vie au travers de cette parole. Et plus nous nous familiarisions avec sa parole en privé, plus on reconnaîtra sa voix lorsqu'on en aura besoin au milieu du chaos. Voyez-vous, l'histoire qu'on vous a montrée la semaine dernière et aujourd'hui, ça fait des années que je veux vous la partager. Chad et moi, on a passé pas mal de temps, enfin ça dépend à qui on demande, mais pour moi c'était pas mal de temps, à s'entraîner au Factory X avec Andrew, avec Ronnie, avec Luke, avec moi, Chad. On y allait deux fois par semaine et on faisait un entraînement de sport de combat. Et je me souviens une fois, on est allé voir un combat pour soutenir un des combattants et Yann était un des combattants. Alors vous voulez parler de la salle la plus bruyante de tout l'État, aller dans une arène de sport de combat. Les gens crient, les gens hurlent et celui-là, il croit qu'il sait tout et il est en train de dire à tout le monde comment il faut se battre. Tout le monde est en train de crier, les autres coachs crient, c'est la folie intégrale. Et avec Chad, on était dans les vestiaires et on a dit à l'entraîneur, mais je remarque que tu coaches pendant le combat, mais comment est-ce qu'ils peuvent t'entendre? Parce que c'est la folie là-bas. Et il a dit, ah, ils ont entendu ma voix tellement ici qu'ils la reconnaissent là-bas. Ils ont entendu ma voix tellement en privé qu'ils la reconnaissent au milieu du chaos. Qu'est-ce que Marc dit dans la vidéo ? C'est le boulot de Yann. Son boulot, c'est de passer tellement de temps dans la pratique à écouter ma voix que lors du combat, il peut la reconnaître au milieu de tous les hurlements. Et c'est comme cela avec vous et moi. J'essaye pas de vous pousser à faire une activité spirituelle, non. Je veux que vous ayez une relation avec Dieu qui change votre vie. C'est ça que je veux pour vous. Et donc, mon défi aujourd'hui, c'est de passer du temps seul dans sa parole avec Dieu pour que vous soyez familiarisés avec sa parole. Et le jour du chaos, le jour du combat, le jour des grandes décisions, le jour des tragédies, je ne sais pas quoi faire, je suis à un carrefour, vous allez reconnaître la voix de Dieu au milieu du chaos. Le groupe de louanges pouvait venir. Je vais terminer bientôt avec une histoire. Je n'étais pas sûr de vous la raconter à cause du temps. Et aussi parce que Dieu, il m'a parlé, mais il a comparé ma vie à une fleur et je n'étais pas très enthousiaste à cette idée-là. Surtout la semaine où je parle d'un combattant de sport de combat. Mais je vais vous la dire. La raison pour laquelle je vis à Denver, c'est parce que ce que je vais vous dire maintenant. Il y a 14 ans, moi et mon épouse, on avait un enfant, un fils de 1 an, et ma femme était enceinte du deuxième. Et on essayait de décider si on devait quitter à Denver pour aider des amis à commencer une église. Il y avait Scott, Eric, non, pas Eric, Eric est venu plus tard. Il y avait Busy, Chad, oui, Todd et beaucoup d'autres. Et on essayait de décider, est-ce qu'on quitte notre boulot? Est-ce qu'on perd tout le confort qu'on a ici? Et on a besoin d'argent, ma femme est enceinte, on a besoin d'assurance santé. Est-ce qu'on va perdre tout ça pour aller à Denver sans travail, sans argent? On n'avait même pas d'endroit où loger. Et je faisais tous mes calculs, je disais, on n'a même pas assez pour louer un appartement quand on arrive là-bas. On ne peut même pas payer nos paiements sur la maison qu'on vient de construire parce qu'on n'a pas de travail, pas de famille sur place, pas de sécurité sociale. Et donc, on se posait la question. Et tout le monde avait son opinion. Et 98% des gens à qui je parlais disaient, non, ne le fais pas. Non, c'est la folie. Tu n'as pas besoin de ça dans ta vie maintenant. Tu es papa maintenant. Tu as des responsabilités. Et je prenais ça très sérieux. C'était très dur pour moi. Mais je savais tout ce qu'on allait devoir traverser. Donc, je suis allé voir le pasteur et j'ai dit, écoutez, pasteur, ça fait 8 ans que je travaille ici. Lui, ça faisait qu'un an, il était là. Il était tout nouveau là. J'ai dit, pasteur, je suis là depuis 8 ans dans cette église. Je sers fidèlement. Et je sens que Dieu m'appelle maintenant. Et je lui ai dit, comme ça, je lui ai dit, est-ce que l'église pourrait nous soutenir financièrement si nous allions implanter une église? Et il a dit, non. J'ai dit, vraiment? Et il m'a dit ça comme ça, droit dans les yeux. Il a dit, écoute, quand tu iras, tu n'auras rien. Ben, c'est pour ça que je vous demande l'aide, que je lui ai dit. Et il m'a dit, vous mangerez des haricots et du riz et ça sera les meilleurs jours de votre vie. Et j'ai dit, ouais, ok, merci, je sais pas ce qu'il faut dire là. Et voilà, c'était la fin de la conversation. Et j'étais assis, on avait ce petit bureau, on n'avait même pas déballé toutes nos boîtes. On venait de construire la maison, on n'avait pas tout déballé. Et j'étais au bureau, j'étais en train de pleurer, j'avais un carnet et j'avais écrit toutes les raisons pourquoi ça n'allait pas fonctionner. Ça n'a pas fonctionné d'aller là-bas à Denver. Et je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, je vais lire la Bible. Et je ne sais pas si c'était un plan de lecture, je ne me souviens plus. Mais j'ai trouvé Matthieu 6. Et dans ma Bible, il y a une section qui est intitulée, le titre c'est « Ne vous inquiétez pas », littéralement. Et j'ai commencé à lire. Et je résume pour vous parce que le temps passe. Mais Dieu disait, tu as déjà regardé les oiseaux dans le ciel? Et comment ils ont tout ce qu'il leur faut? C'est parce que moi, je m'en occupe. Tu as déjà remarqué les fleurs? Comment elles ont tout ce dont elles ont besoin? C'est parce que je m'en occupe. Et j'ai senti que Dieu m'a parlé à ce moment-là. J'avais lu ça des millions de fois. C'est dans Matthieu. Chaque fois que j'ai envie de lire la Bible à nouveau, je commence par Matthieu. Je l'avais lu 10 fois. Mais ce jour-là, il m'a parlé parce que sa parole est vivante et efficace. Et ce jour-là, elle m'a touché différemment. Et il y a une ligne qui dit, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, gens de peu de foi. Et moi, je sentais que Dieu, le Dieu de l'univers disait, je m'occupe de toi. Va, je m'occupe de toi. Et j'ai couru de mon bureau, j'ai dit, Jill, tout ira bien. Elle a dit, mais je sais. Ok, c'était bon de te parler, chérie. Je t'aime, à plus. Et nous sommes allés à Denver. Parce qu'un jour, je lisais la Bible. Et Dieu m'a comparé à une fleur. J'étais pas très enthousiaste à l'époque avec cette comparaison. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et vous savez, ça s'est passé parce que quelqu'un, pendant tout un temps, m'a forcé à lire la Bible 1 heure par jour chaque matin. Et donc, je me suis familiarisé avec la voix de Dieu en privé. De sorte que, dans les difficultés, dans les moments de décision, pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que j'ai été poussé dans la bonne direction, j'ai pu reconnaître sa voix au milieu de tout un chaos. Et c'est ce que je voudrais pour vous. Parce que certains sont au milieu de choses difficiles maintenant. Et je voudrais que vous reconnaissiez la voix de Dieu au milieu de tout le chaos. Certains doivent prendre de grandes décisions maintenant. Je voudrais que vous puissiez reconnaître la voix de votre Créateur au milieu de tout le chaos. Parce que moi, je vous dis, il a un plan pour vous. Il vous aime et il veut vous parler. Nous devons décider si nous allons écouter. Prions. Père, je te remercie pour tout ce que tu fais dans cette église maintenant. Je te remercie pour les plans que tu as pour chacun d'entre nous, des plans que nous ne connaissons pas et que nous ne savons pas. Mais je te remercie pour ce que tu fais dans notre vie en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille et en tant qu'église. nous célébrons ton œuvre. Et je prie maintenant, alors que nous allons t'adorer avec de la musique, je prie maintenant pour qu'il y ait des poids qui soient ôtés des épaules des gens et que nous puissions nous réjouir de ce moment. Et que de tout notre cœur, nous puissions dire merci parce que tu es avec moi. Merci parce que tu as un plan. Merci parce que tu m'as sauvé. Et merci parce que tu prends soin de moi où que nous devions aller. Et je prie pour qu'il y ait un esprit de paix qui touche chacun sur tous les campus. La paix au milieu de la tempête, sachant que notre Dieu est avec nous. Notre Dieu s'occupe de nous. Et puis je prie pour l'enthousiasme. Pas de culpabilité, mais de l'enthousiasme. Que nous, en tant qu'Église, nous puissions sortir et commencer à ouvrir ta parole, à écouter ta voix, qui nous appelle, qui nous dirige, qui nous guide et qui nous équipe. Et je prie tout cela pour chacun d'entre nous et chacun qui écoute et qui regarde maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde sur tous les campus dise « Amen. Église, levons-nous et adorons Dieu ».